Vous écoutez La Troisième Rangée pour un segment un peu particulier, le coup de Projo, où vous choisissez pour nous un film qui vous tient à cœur. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos suggestions via nos comptes Facebook et Twitter. On prend tout en compte et on choisit un nouveau film toutes les deux semaines. Maintenant que vous êtes prévenus, bande annonce.
There is one remarkable clause in my husband's will. He has left my niece a fortune.
Lord Warburton has asked me to marry him.
I told you you'd be a success over here. Americans are highly appreciated.
I shall probably never marry.
You call marrying giving up?
It's getting a great deal, but it's giving up other chances.
Chances for what?
The usual chances and dangers.
Portrait de femme, c'est notre coup de Projo qui nous a été proposé par notre dernière invitée, Iman, on la remercie. C'est un film de Jane Campion, 142 minutes, sorti en 1996 avec une distribution pas loin d'être exceptionnelle. Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Martin Donovan, Shelley Winters et même des petites apparitions de Shelley Duvall et de Christian Bale ainsi que de Viggo Mortensen. Tout ce beau monde donc dans un film d'époque. Je vais laisser Justin refaire le contexte un petit peu du film.
Voilà, donc c'est un film qui se passe donc à la fin du 19e siècle, donc adapté de Henry James. Et donc on y suit Isabelle Archer, une jeune américaine qui vient rendre visite à ses cousins anglais et qui voilà, va faire diverses rencontres à travers plusieurs hommes et qui va se confronter au patriarcat, en quelque sorte, masculin, y résister plus ou moins. Et donc, comme je l'ai dit, c'est adapté d'un roman de Henry James. Alors, si, pour ceux qui ont déjà lu Henry James, c'est assez particulier, c'est-à-dire c'est un écrivain qui très refoulé dans l'expression des sentiments, dans tout ce qui concerne le sexe. C'est, quand on le lit, c'est fascinant, mais c'est en même temps très agaçant, très frustrant, parce que c'est quelqu'un, c'est tout est dans le non-dit, dans l'arrière-pensée, dans quelque chose de très contenu.
Alors là, pour le coup, elle commence par un plan à trois au bout de 15 minutes de film. Donc,
c'est ça qui est intéressant.
Oui, mais imaginaire. Imaginaire, mais il est montré, quoi.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est très fidèle au roman, mais elle détourne complètement ce côté très précieux, très retenu d'Henry James. Et en fait, moi, je trouve que c'est une sorte d'inverse exact qu'elle a voulu faire de la leçon de piano. C'est-à-dire, la leçon de piano, on avait un personnage féminin qui était totalement isolé à la fois par son cadre géographique, par son handicap, par sa frustration, et qui s'éveillait au monde par le désir, finalement. Alors que là, on a un personnage, a priori, déjà indépendant avec Isabelle Archer, et ce qui va la trahir, et ce qui se détourne un peu par rapport au roman, c'est justement le désir aussi. C'est-à-dire que là, au départ, elle connaît mal les hommes, on va dire, en tout cas, elle connaît un aspect plus... plus macho des jeunes hommes, elle connaît pas vraiment le monde, donc au départ il y a une scène avec Viggo Mortensen qui a un prétendant un peu au gros sabot qu'elle va repousser sans difficulté à ce qu'elle voit venir, et elle va tomber sous la coupe du personnage de John Malkovich qui est déjà un peu plus vicieux, un peu une approche un petit peu plus calculée dans sa méthode de séduction.
C'est une idée à la Liaison dangereuse,
oui,
en fait.
Voilà.
C'est vraiment ça. Il y a un setup, enfin une manigance pour que elle finisse avec John Malkovich,
un couple très qui tire les ficelles.
C'est ça.
Sauf que les Liaisons dangereuses, on suppose les personnages sont supposés être un peu plus vulnérables au départ, alors que là on a au départ comme personnage qu'on nous présente comme fort, comme indépendant, comme moderne, et qui va tomber complètement dans ces travers-là. Quoi.
Ouais. Alors, c'est un film, effectivement, on peut penser aux Liaisons dangereuses, en plus, il y a John Malkovich qui vient faire le lien, les personnages peuvent se ressembler un petit peu. On pourrait se dire, bon, ça va être c'est un drame d'époque très conformiste, très gros sabots, dans les clous, et en fait, pas du tout, et c'est ce que Loris va nous expliquer.
En fait, déjà, elle a un style qui... Enfin, on sent qu'elle a l'envie de faire, comme tu décris, un grand drame en costume et tout ça, mais son style ne se sied pas vraiment à ça, je trouve. Déjà, quand elle avait fait Un ange à ma table, c'était un biopic d'une poétesse, et le style n'était pas du tout adapté à un grand biopic classique, etc. Et là, c'est pareil, en fait, même le film commence par un prologue très étrange avec des femmes qu'on imagine être des femmes contemporaine, ça dure une minute.
Oui.
Et en fait, je pense que l'envie est de dire, on va nous montrer un portrait de femme qui est censé illustrer les difficultés que vont rencontrer les femmes à travers les siècles qui vont suivre.
Ce qui a été, voilà. Ce qui sera toujours quelque part.
Exactement, c'est ça. Et donc, on va montrer ce personnage incarné par Nicole Kidman qui fait face à, bah, par exemple, au fait d'être avec un homme, marié avec un homme et d'être dans l'impossibilité absolue de le quitter alors qu'il est horrible avec elle, il la frappe, etc. Et tous ces problèmes qui dureront pendant des siècles et des siècles. Donc, il y a ça qui, je trouve, brise en fait l'aspect un peu trop solennel qu'aurait pu avoir le film. Et je trouve que même au niveau style, il y a des passages très étranges où ça devient en 4 tiers à un moment.
Voyage qui se déroule.
Voilà, des petites expérimentations visuelles qui détonnent au milieu du film. Après, cela dit, moi j'ai un problème avec le film, c'est que je suis à fond dedans au début parce qu'on me présente ce personnage qui dit vouloir découvrir le monde, qui a conscience qu'elle peut être enfermée dans un certain type de vie par un homme, par une classe, etc. Et en fait, le film, et je pense que c'est peut-être dans le roman aussi en fait, mais l'attention va sur un autre personnage qui est la fille de John Malkovich.
Ouais.
Et de son mariage, etc. Et ça devient, elle, presque le sujet du film, et puis le personnage de Nicole Kidman. Et moi, j'ai aucune émotion, empathie pour la fille, enfin, ou avec qui elle va finir.
Qui, elle, en plus, retombe dans une linéarité très romancière. Ah oui, c'est «
J'aime mon père », et voilà, elle change pas.
Ça n'a pas tant d'importance que ça dans le livre, finalement. Là,
elle
a peut-être voulu creuser un peu.
Et je trouve que dans le film, on perd le point de vue de Nicole Kidman pendant une grosse partie du film, avant de le retrouver à la toute fin. Ouais. Et c'est un peu dommage.
Après, je pense que le personnage de la fille est mis en parallèle avec celui de Nicole Kidman.
Bien sûr, oui.
Parce que voilà, par rapport à John Malkovich, qui est quelqu'un d'assez ignoble, mais aussi qui a une idée très précise de ce qu'il attend d'une femme.
Et elle veut pas, Nicole Kidman ne veut pas que cette fille vive la même chose qu'elle.
C'est ça, sauf que la fille de John Malkovich, c'est une petite, la petite poupée de John Malkovich, elle se conforme totalement au désir de son père, elle l'accepte. Et elle le revendique. Là où Nicole Kidman va essayer de s'émanciper et de prendre ses distances par rapport à John Malkovich, qui est parfaitement horrible.
Ouais.
Moi, le film, je suis pas trop rentré dedans. Mais après, je pense que c'est surtout c'est un univers qui ne m'intéresse pas ou me passionne pas. C'est un peu le bal des faux culs pendant tout le film. Voilà, moi, de 2h30 de gens qui sont horribles les uns envers les autres, sans que je puisse vraiment, sans que je puisse me projeter dans un personnage ou vraiment avoir de l'attachement envers un personnage, c'est compliqué parce que ça dure 2h30. Vous parliez tout à l'heure là du passage en 4 tiers. Moi, pour le coup, c'est le passage que j'ai le plus aimé du film. Dommage que ça soit pratiquement un court métrage dans le film. ça reprend les vues cinématographiques qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque où le film se passe,
au milieu des années 1800.
C'est ça, le cinéma va bientôt arriver et c'est le type de vue qu'on pouvait voir, qu'on pouvait être filmé à l'époque, même si tout est mis en scène en mode carton pâte comme si c'était un vieux film, c'est très bizarre.
Il y a ce problème dans le film entre, j'ai l'impression, un désir de faire un film d'époque solennel de façon totalement originale et en même temps un respect, une déférence envers ce genre-là, parce qu'elle doit aimer ce genre-là, parce qu'elle a quand même fait leçon de piano et tout ça. Mais même leçon de piano, c'était...
La leçon de piano, c'était une autre influence, parce qu'elle a aussi pas mal lu les Sœurs Brontë, donc tout ce qui est Jane Eyre, Les Hauts de Hurlevent, et on sent ça dans l'aspect de la façon dont elle filme la nature, alors que là elle est vraiment sur le côté guindé,
mais les Sœurs Brontë, tu peux dire aussi que ça a un héritage extrêmement pesant.
Oui.
Je veux dire, tu vois, en termes d'influence énorme.
Mais tu peux plus te lâcher. Il y a le côté gothique quand même outrancier où tu peux quand même travailler les Sœurs Brontë. T'as des films très différents, juste Jane Eyre. C'était quatre adaptations qui se ressemblent pas du tout l'une entre elles, alors que c'est la même histoire. Quoi.
Même Les Hauts du Hurlevent, il y a eu des choses très différentes.
Tu peux tout faire, c'est vrai. Ouais. Non, t'as raison.
Et un aspect que moi j'ai bien aimé aussi, c'est pour revenir à l'aspect désir, en fait, c'est la manière dont, par l'image, pas forcément par le dialogue, où on montre l'emprise progressive de John Malkovich. Par exemple, au début du film, donc à la confrontation avec Viggo Mortensen, où là, c'est du simple chant contre chant, donc on sent qu'elle est libre de lui répondre ce qu'elle veut. Il y a un côté où on les oppose par le montage. Et ensuite, la scène où définitivement John Malkovich, lors d'une de leur rencontre, va avoir la main sur elle. C'est une scène dans le, je crois, c'est à Florence, si je me trompe
la
pas,
scène
dans
du
le,
parapluie
dans le musée.
C'est ça, la scène du parapluie. Oui. Elle est super bien, cette scène.
En fait, il y a, voilà, on voit la manière dont il s'appelle. C'est vraiment un serpent, quoi. Il l'hypnotise, il lui parle. Il y a un travail sur le montage, sur le découpage où il se rapproche d'elle. Voilà. Il s'enroule comme un serpent autour d'elle et puis elle est séduite. Elle tombe sur le charme, elle voit pas venir. Alors que, voilà, comme je le disais, avec un personnage comme Viggo Mortensen qui est un coq, quoi, qui sait pas y faire, elle sait pas s'en sortir. Et d'ailleurs, même on le sent même dans une scène où elle est censée être agressée, c'est-à-dire un moment où ils sont déjà mariés, où il va un peu l'agresser verbalement, limite physiquement, il se rapproche d'elle. Où voilà, il y a cette contradiction dans le visage de Nicole Kidman, où ce côté désir, ce côté rejet, où on ressent, voilà, cette ambiguïté par rapport à ce côté sexuel qui est détourné, comme je disais, par rapport à la leçon de piano.
Ça, ça reviendra vachement dans sa cinématographie, en fait. Je pense à un film comme In the Cut, avec Meg Ryan, qui est un film que j'adore, pour le coup, de Jane Campion, où c'est vraiment une étude du désir féminin sous l'angle du polar, ouais, pour le coup.
Qui
mais...
nous fait aller à contre-courant de nos idées.
Totalement, ouais. D'ailleurs, on peut dire ça aussi, c'est une réalisatrice qui a longtemps été utilisée un peu pour dire mais si ça existe des femmes réalisatrices,
il y a la Palme d'Or,
voilà, il y a Jane Campion, en fait ça fait 20 ans qu'on la sort à chaque fois pour dire, surtout parce qu'elle elle a toujours eu des personnages féminins, en fait je n'ai pas le souvenir qu'elle ait fait un film où le personnage principal soit un homme, à vérifier, mais et l'étude du désir féminin, etc. Donc elle a toujours été utilisée un peu de cette façon, et j'ai l'impression que ça a éloigné les gens de son cinéma, finalement. Et Portrait de femme, c'est un film pas connu, quoi, j'ai l'impression. Enfin,
D'ailleurs, quand il était sorti à l'époque, ça sortait juste après, comme on le disait, La leçon de piano, et ça avait déçu. Enfin, aujourd'hui, c'est un film qui a un peu plus de reconnaissance, mais à l'époque, voilà, on s'attendait encore à quelque chose de flamboyant, et là, on a quelque chose comme c'est quand même très austère. Très dur.
Non, c'est austère, et en même temps, on est quand même dans des décors qui sont plutôt somptueux, entre Rome, Florence, et surtout...
Mais après, c'est anti-romanesque, quoi.
Oui, mais en même temps, je trouve, dans la manière de filmer, il y a quelque chose toujours de très imposant, de très écrasant des décors, avec souvent, c'est le Nicole Kidman ou les personnages qu'on les filmé de loin, alors qu'ils sont dans des grandes pièces, et t'as le personnage qui est tout petit dans le cadre. Le cadre, souvent, qui est très débulé aussi. Ouais.
Mais finalement, je pense que
c'est plus. Il y a des moments, j'ai quand même l'impression que c'est plus pour une manière de filmer, par rapport à la composition du cadre à l'image, plutôt que véritablement un parti pris pour montrer quelque chose visuellement.
Moi, j'allais te répondre que je pense que c'est. Parce que le film commence par un héritage, en fait. Qui la rend riche, fait. Et c'est ça qui va créer sa déchéance, parce que John Malkovich va la séduire pour son argent. Donc, ce fait de l'inclure dans des décors comme ça, c'est un peu, je pense, le poids d'une classe bourgeoise dans laquelle elle est enfermée, alors qu'au départ, c'est une fille qui presque aurait voulu être pauvre pour vivre des vrais trucs, alors qu'elle est prisonnière de passer sa vie à être courtisée.
C'est marrant, parce que typiquement, l'Antimos dans La Favorite filme Emma Watson, c'est n'importe quoi. Emma Stone, de la même manière. Ouais. Parce que Emma Stone est un personnage, une roturière qui arrive. Et typiquement, il la filme exactement comme tu l'as cité. Donc ça, je pense que c'est plus pour ce que vient de dire Loris, le sens que vient de dire Loris, que pour un effet visuel, effectivement.
Et puis c'est typique de Henry James, que le thème récurrent dans pas mal de ses livres, c'est l'opposition entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis, ça représente une certaine forme de modernité, de nouveau monde. Et à chaque fois, on a des personnages, souvent féminins en plus, qui se confrontent à la vieille Europe, ces traditions, et qui sont écrasés à chaque fois par cet aspect-là. Aussi.
C'est l'objet d'humour, d'ailleurs, dans le film, dans plusieurs dialogues qui se moquent des États-Unis. Et Jane Campion, elle est Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup en tout cas pour vos avis sur Portrait de femme, et merci à Iman de nous l'avoir proposé.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coups de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.